Livre 8, chapitre 1er, moyen de se faire des amis. Lorsque Camilla parut à la porte de la salle, un jeune homme descendit de la voiture de Mistry Burlington et lui présenta la main après l'avoir saluée d'un air fort triste et les yeux baissés. Il les releva cependant en l'aidant à monter et, comme il les tournait alors vers la maison, d'un air où se peignaient la tendresse et le découragement, elle reconnut Melmont, le jeune poète, frère de sa nouvelle amie. Mistress Burlington la reçut avec amitié, la pressa contre son sein et déclara que sans elle, la vie lui devenait insupportable. L'affection de Camilla n'était pas moindre, mais les circonstances ne lui permettaient point de goûter ce plaisir avec autant de vivacité. Mistress Burlington n'était pas seule dans sa voiture. Camilla reconnut Mistress Mettin assise en face de son amie. Camilla ne s'était souvenue de ses dettes qu'à l'occasion de l'aventure du cheval. La présence de Mistress Mettin lui rappela vivement cet article et la fit rougir. Mais Sir Hugh venait de lui donner 20 guinées. Satisfaite de pouvoir réparer sa négligence, elle se promit de ne dormir qu'après s'être acquittée. Mistress Burlington lui dit qu'elle et son frère se rendaient à Southampton pour y voir Madame Acton, sa tante, qui l'avait élevée, et qui venait de s'y rendre du pays de Galles pour des affaires secrètes qu'elle voulait lui communiquer et qui ne pouvaient être confiées au papier. Le voyage parut à Camilla fort long et fort ennuyeux. Son œil était frappé des beautés de la perspective, mais son esprit, mort au plaisir, n'en éprouvait point l'effet. Les charmes de la nature ne pouvaient se dérober à son imagination. Mais elle n'y songeait pas en ce moment. Plaine, vallon, colline, nul objet n'intéressait son âme. C'était Edgar qu'elle cherchait et que ses yeux demandaient à toute la nature. Edgar, qu'il avait laissé partir si froidement et qui, cependant, pouvait encore être tenté de la suivre. L'espérance, toujours active, lui peignait Edgar dans chaque objet nouveau qui s'offrait à sa vue. Quelquefois, elle croyait le voir, alors le vif incarnat du plaisir brillait sur ses joues, et le feu de l'espérance étincelait dans ses yeux. Mais en approchant, l'illusion disparaissait et les collines, les vallons, les plaines ne lui laissaient que le chagrin de l'espérance abusée. On arriva bientôt à une jolie maison située sur une petite éminence à un demi-mille de Southampton. Elle avait été louée d'avance. Mistress Burlington, après avoir choisi pour Camilla l'appartement le plus agréable et laissé Mistress Mettin, maîtresse, de prendre pour elle ce qui lui conviendrait, se rendit avec son frère chez Madame Acton. Camilla se mit à la fenêtre, ne voulant que considérer la vue de la campagne. Mais ses yeux, conduits par son cœur, parcouraient la grande route et passaient en revue tous les voyageurs. Mistress Mettin, avec son aisance ordinaire, entra dans sa chambre. « Eh bien, ma chère Miss, s'écria-t-elle, vous voilà bien accueillie par Mistress Burlington. Quelle honnêteté, n'est-ce pas? Je ne connais pas de personne plus obligeante. N'êtes-vous pas un peu surprise de nous voir si bien ensemble? Je vous dirai comment cela s'est fait. Le voici. Vous sortiez. Le hasard voulut que je fusse dans la boutique du libraire quand elle y vint demander un livre. C'était les lettres péruviennes. » Il ne l'avait pas et cela parut lui faire de la peine car elle dit qu'elle avait parcouru tout le catalogue et qu'elle n'y trouvait rien qui lui plût. Je saisis cette occasion pour faire connaissance avec elle. Je pris son nom et j'allai voir une personne que je savais avoir le livre. Je lui dis qu'une dame en avait besoin. Elle me permit de l'emporter et j'allai sur le champ chez Mistress Burlington qui ne savait comment me remercier. Cela m'introduisit chez elle et là, j'appris de ces gens qu'elle devait aller à Southampton et que vous deviez, ma chère Miss, être de la partie. Et comme il y avait place dans la voiture, je la priai de m'en donner une, d'autant plus que vous ne seriez point fâchée de m'y voir, puisque nous avions quelques affaires secrètes à régler ensemble. Alors elle me dit qu'elle ferait tout pour vous obliger, et je pris la liberté de lui demander asile pour une nuit, jusqu'à ce que j'eusse trouvé quelque amie chez laquelle je me rendrais, car j'avais grande envie de voir Southampton. Je suis bien sûre, ma chère Miss, que si vous lui dites que cela vous fera plaisir, elle me pressera de rester ici tout le temps que vous y serez, car je vous avoue que je n'y connais personne, quoique je sois bien sûre de me faire des amis partout où j'irai. Et vous savez, ma chère Miss, que vous me devez ce petit service pour ceux que je vous ai rendus. car j'ai bien rassuré tout le monde sur vos dettes. Ils disent même que vous les paierez quand vous voudrez, car je leur ai dit que vous étiez une héritière bien riche. Et c'est une chose que je tiens de M. Dobster, à qui votre frère l'a dit en secret. » Camilla sentit un repentir bien vif en se voyant dépendante, en quelque sorte, d'une femme aussi commune et contrainte par son importunité d'abuser de son nom et de son crédit auprès de Mrs. Burlington. Elle nia les bruits que Lionel avait répandus et, tirant de sa poche le billet de banque de 20 guinées, elle pria Mrs. Mittin de le changer et d'acquitter sans délai ses dettes. Mrs. Mittin, à la vue de ce billet, se garda bien de croire que Camilla ne fut pas une riche héritière. Elle promit de retirer ses billets. Camilla aurait bien voulu rester seule, mais Mrs. Mittin ne songeait à rien moins qu'à lui laisser cette liberté. Ne sachant à quelle heure Mrs. Burlington reviendrait et ne pouvant plus soutenir l'ennui de cette conversation, elle lui proposa de faire avec elle un tour de promenade. Il n'était encore que 2 heures et le temps était délicieux. Mrs. Mittin la conduisit aussitôt vers la ville et Camilla fut frappée de la voir si propre et si peuplée. « Mais ce n'est rien, disait Mrs. Mittin, en comparaison de Londres. Il fallait voir depuis Temple Bar jusqu'à Charing Cross. On n'avait point encore vu le monde si l'on n'avait point vu ce beau quartier de la capitale. » « Maintenant, ma chère Miss, s'écria-t-elle, le tout est de savoir au juste ce que nous avons à voir. Ces boutiques paraissent fort jolies. Entrons et demandons ce qu'il y a de curieux dans la ville. » Ce prétexte était très favorable à la curiosité de Mrs. Mittin. Ainsi, s'abandonnant à sa manie de voir, elle entrait dans chaque boutique, s'informait de ce qu'on y vendait. Et, sans attendre la réponse, elle sortait pour entrer dans une autre, en faisant remarquer à Camilla qu'il ne leur en coûterait rien et qu'elles auraient vu tout. Les marchands, interrogés par l'indiscrète Mrs. Mittin sur ce qu'il y avait de beau dans la ville, indiquaient, selon leurs goûts et leurs opinions, les églises, les quais, les places, les portes antiques et les marchés. Mais, tout en satisfaisant à ces questions, ils considéraient l'indifférence de Camilla et, peu satisfaits de montrer leurs marchandises sans étrenner, il les accompagnait jusqu'à la porte et les voyait entrer chez le voisin pour en sortir encore de la même manière. On s'aperçut qu'elle ne suivait point les informations qu'on leur donnait. Dès lors, les soupçons s'élevèrent sur le compte des 2 étrangères. Les uns supposaient qu'elles ne cherchaient qu'à se faire remarquer, les autres crurent qu'elles avaient l'esprit dérangé, d'autres coururent épouvantées à leur comptoir dans la crainte qu'elles ne fussent des voleuses. 2 marchands, divisés par ses opinions, soutenaient chacun la sienne avec tant d'opiniâtreté qu'ils en seraient venus à quelque excès si leurs esprits échauffés ne se fussent conciliés par une gageure. Prenant donc pour arbitre un jeune parfumeur et laissant le soin de leurs boutiques à leurs femmes, ils suivirent nos 2 voyageuses. Monsieur Furl, vieux drapier, bien rusé, qui les avait prises pour des friponnes, déclara qu'il aurait l'œil aux aguets et qu'il les surprendrait quand elles y songeraient le moins. Monsieur Drim, bon et honnête mercier, qui les croyait filles, fit un détour pour les examiner en face. Quand il approcha de Camilla, il fut si frappé de son air pensif que cela ne lui parut point naturel. Quant à Mrs. Mittin, il crut apercevoir en elle quelque chose de hagard. Et, d'après sa volubilité, son mouvement perpétuel, le peu d'attention qu'elle faisait à ceux qu'elle interrogeait et dont elle n'attendait pas les réponses, il conclut que ses soupçons étaient très bien fondés. Mrs. Mittin s'aperçut cependant qu'il examinait avec beaucoup de curiosité. Elle l'examina à son tour avec un regard si dur, tout en parlant à voix basse à Camilla, qu'il fut persuadé qu'elle avait contre lui quelque mauvais dessein et se hâta, dans sa terreur, de rejoindre ses camarades, laissant de lui à Mrs. Mittin l'opinion qu'il avait conçue d'elle-même. « Ah, ma chère !» s'écria Mrs. Mittin. Certainement, cet homme qui nous regarde en face n'est pas en son bon sens. Pourquoi suivre ainsi nos pas et nous examiner d'une manière si bizarre? Je crois que nous n'avons rien de mieux à faire que de nous en aller. » Elles se hâtèrent donc de quitter le quai. Mais en détournant au premier passage pour se dérober à la vue de cet homme, elles se trouvèrent auprès d'un de ses petits appartements, préparés pour recevoir ceux qui veulent prendre les bains. Cet endroit leur parut aussi sûr qu'agréable. Elles entrèrent et Camilla, se livrant au plaisir de contempler les belles eaux de Southampton, ses beaux rivages, s'assit à la fenêtre et désira ne pas aller plus loin. L'effroi dont M. Dream avait été frappé ne fit point de prosélytes à son opinion. M. Gert, le parfumeur, dit positivement qu'elles n'étaient autre chose que des voyageuses désœuvrées et d'un caractère léger. Et quand M. Furl les vit entrer dans la salle du bain, il voulut gager, deux contre un, qu'elles n'étaient entrées là que pour y partager leur vol. Le pari fut accepté. De plus, il fut convenu que l'un se mettrait en sentinelle dans les passages adjacents, pendant que les deux autres rôderaient sur le rivage. Cependant, Mrs. Mittin s'amusait, aussi bien que Camilla, des différents objets qui se déployaient sous leurs yeux. Une société d'hommes et de femmes venait de retenir un bateau pour descendre la rivière, et pendant qu'on le préparait, la parure, les ajustements, l'air de gaieté, les cris d'impatience, la pétulance des uns, la joie des autres, faisaient désirer à Mrs. Mittin de s'y glisser. Camilla ne vit presque rien. L'image qui remplissait son cœur avait tout à coup frappé ses yeux. Le docteur et Mandelbert, qui venaient d'arriver, s'étaient avancés sur le trottoir. Edgar l'avait aperçu. Tous deux se saluèrent et le docteur Marchmont, surpris de l'air et de la figure de sa compagne, lui demanda quelle était cette singulière femme à laquelle Mrs. Burlington avait confié sa jeune amie. Edgar, qui n'avait aperçu que Camilla, ne put alors se dispenser de faire un autre salut. Mais il fut fâché de la voir avec une personne si peu faite pour ajouter à sa considération et à la faire respecter. Il se rappela d'avoir vu Mrs. Mittin à Tunbridge. Grâce à l'extrême facilité de Mrs. Alberry, cette femme avait trouvé moyen de s'introduire dans sa maison. Mais il avait peine à concevoir comment Mrs. Burlington ou Camilla pouvait avoir conservé si longtemps une semblable connaissance. M. Furl, ayant remarqué que deux hommes les avaient salués, commençait à craindre pour sa gageure. Et pour prendre quelque information auprès d'eux, il les aborda. « Il paraît, messieurs, leur dit-il, que vous observez ces dames. Dites-moi, je vous prie, si vous les connaissez. »« Pourquoi cette demande ?» lui répondit sèchement Edgar. « Monsieur, répliqua-t-il, nous avons fait une gageure à leur sujet, et je pense qu'il n'est point d'homme qui refuse d'en aider un autre à gagner son pari. »« Un pari ?» dit Edgar, cherchant à dissimuler sa curiosité. « Et quel est-il ?»« Je vous dirai, monsieur, que personne ne peut juger mieux que moi si j'ai bien ou mal fait de parier, quoiqu'assurément je pense avoir perdu si vous connaissez ces dames. Mais j'ai tant vu de ces tours de femmes en ma vie. » « Des tours de femmes, de qui parlez-vous ? » ?»« Je parle, monsieur, de ces femmes qui volent et filoutent dans les boutiques. » »« Et que voulez-vous dire par là ?»« Monsieur, ne nous fâchons pas, je peux perdre mon pari, mais il semble que je peux parler avant de payer. » Le docteur Marchmont demanda ce qui avait donné lieu à ce soupçon. Monsieur Ferre répondit qu'elles avaient couru toutes les boutiques de la ville, que partout elles s'étaient fait présenter les plus belles marchandises sans avoir rien acheté. Edgar ne pouvait rien comprendre à cela, si ce n'est que Camilla s'était laissée conduire par Mrs. Mittin. La présence du jeune Gert amena l'explication. Monsieur Gert, le parfumeur, ayant aperçu dans le groupe une de ses pratiques, avait raconté à haute voix l'histoire du pari. Aussitôt, tous les yeux s'étaient portés vers la fenêtre, alors il s'était fait de nouveaux paris, fondés sur toutes sortes de conjectures, mais dont aucune n'était en faveur des deux femmes. Il se trouva cependant un seul homme sur 14 qui défendit Camilla. Celui-là soutint que son visage était le siège de la pudeur, plus encore que de la jeunesse et de la beauté. Après avoir entendu de la bouche de Gert le détail de ce qui s'était passé dans le groupe, et voyant trois hommes s'acheminer vers Camilla, Mandelbert craignit qu'il ne résultât de ces rumeurs quelque chose de fâcheux pour elle, courut à son secours.